suicide de l'humanité. Je vous donne là comme témoignage quelqu'un que je connais bien, dont j'ai lu la lettre, qui est un médecin, une femme médecin, psychanalyste, qui fait partie de ces freudiennes que je connais, mais qui a un respect extraordinaire vis-à-vis de l'autre. Quand elle a vu la loi de Simone Veil sur l'avortement, elle a écrit en tant que médecin à un autre médecin en disant: docteur, vous venez de commettre un crime de lèse-majesté en tant que vous êtes médecin. Vous avez en tant que médecin le respect de la vie. Et le médecin doit respecter la vie. Or, vous n'avez pas respecté la vie. Et donc, vous n'êtes plus digne d'être médecin. Même si l'ordre des médecins n'a pas le courage aujourd'hui de vous dire cela, moi je vous le dis parce que je suis médecin. Et venez me voir si vous voulez, et nous réglerons la question ensemble. Mais je tiens à vous le dire, qu'il y ait au moins parmi les médecins quelqu'un qui ait le courage de vous le dire. Vous avez commis un acte contraire à votre fonction profonde, votre vocation profonde de médecin. Deuxièmement, pas seulement en tant que médecin, mais tout simplement en tant que femme, vous avez manqué de respect à l'égard du plus petit. En manquant de respect à l'égard du plus petit, vous supprimez le fondement de la morale. Vous avez suicidé la France. Et vous en porterez les responsabilités. Puis elle a signé en mettant son adresse et son numéro de téléphone. Bien évidemment, elle n'a pas eu de réponse. Et je crois que c'est très vrai. Et elle a dit: je ne me place pas du tout au niveau de croyant ou pas croyant. Je me place simplement au niveau de l'homme. Simplement au niveau de l'homme. Vous n'avez pas respecté le plus petit. Si vous ne respectez pas le plus petit, vous vous détruisez vous-même. Oui, c'est toujours la position que prend Jean Vanier par rapport aux handicapés. Vous savez bien, les handicapés profonds, rabataires et les handicapés profonds, on les détruit aujourd'hui. On fait ça proprement, mais on les détruit. Alors, il faut, au nom de l'humanité, être les défenseurs des plus petits. Ça, c'est la chose élémentaire. Celui qui est adulte, il est le défenseur des petits et des plus petits. Vous voyez, c'est là la croisade d'aujourd'hui. C'est la croisade par rapport au sépulcre du Christ. Et les pères de l'Église mettaient toujours un parallèle entre le sépulcre et le premier moment de la vie du Christ en Marie. Et au fond, on en arrive à ça. L'humanité aujourd'hui, l'humanité qui a été chrétienne, parce que c'est pareil, c'est dans les pays qui ont été chrétiens. L'humanité qui a été chrétienne est tombée plus bas, ou aussi bas, parce que ça s'est toujours fait, hélas, les avortements et les destructions des enfants anormaux. Ça se faisait en Grèce, on savait bien. Mais l'humanité qui a été chrétienne descend plus bas, parce qu'elle le fait de façon plus systématique. Elle ne met pas un voile en disant: débrouillez-vous, faites ce qui vous semble mieux. Non, 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 on érige une loi pour que ce soit propre, pour supprimer le problème moral. Parce que les gens croient que la loi supprime le problème moral. On est arrivé là. C'est légal. Donc, il n'y a plus de problème. Attention! Le problème moral est un problème personnel, ce n'est pas un problème d'État. C'est un problème personnel, c'est chaque individu qui porte sa responsabilité. Et donc le point de vue légal ou pas légal, ben, c'est second. Ce qui est premier, c'est de savoir la responsabilité de l'homme par rapport à l'homme. Vous voyez, voilà, si à propos de cela, il y a des questions, vous les traiterez tout à l'heure, et puis on pourra revenir tout à l'heure dessus. Je voulais vous dire cela, parce que je crois que c'est très important de voir les trois niveaux de réflexion. On ne l'a pas assez vu. On ne l'a pas assez vu, ces trois niveaux de réflexion. Parce que c'est très important de saisir que le problème de l'avortement ne se situe pas de la même manière pour un athée, pour un homme qui a réfléchi au point de vue philosophique et pour un croyant. Il y a trois niveaux de réflexion. Parce que c'est un problème ultime. C'est le problème ultime, c'est le respect de l'homme à l'égard de l'homme. En définitive, c'est cela. Dieu a voulu que l'espèce humaine se propage de cette manière-là. Donc Dieu a fait confiance à l'homme. Et l'homme n'a pas très bien répondu. De temps en temps, il répond très bien. Il suffit qu'il y ait 5 justes pour que Sodome et Gomorre ne soient pas détruits. Donc il suffit qu'il y ait 5 mères qui soient vraiment des mères et qui respectent pleinement l'alliance avec Dieu pour que Dieu continue de faire la miséricorde. Il ne faut jamais oublier. Et une mère, quand elle attend son enfant, elle porte cet enfant au nom de toutes les mères. Et avec le respect à l'égard de son enfant, pour toutes les mères qui n'ont pas le respect, elle répare. Dans ce respect même, c'est la grandeur, hein, il faut bien voir, c'est la grandeur de la maternité. Étant donné que la lutte aujourd'hui est au niveau de la fécondité. Et la fécondité est premièrement la fécondité selon la chair et le sang. Alors, voyons maintenant, je passe tout de suite au problème qui nous intéresse aujourd'hui, les dimensions affectives de la vie, les passions. Y a-t-il un amour spirituel? C'est très important pour nous de saisir les niveaux différents de l'affectivité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle affectivité, hein? Les anciens, Aristote, Platon, les Grecs, les théologiens du Moyen-Âge, tout ça c'est les anciens. Les anciens sont nos grands-pères, nos arrière-grands-pères. Bon, les anciens ne parlaient pas d'affectivité. Le terme affectivité est moderne. Il ne faut pas le bouder, on sait très bien ce que c'est que l'affectivité. Mais c'est moderne. Alors c'est intéressant de voir la différence du langage, parce que le langage est toujours très révélateur de quelque chose. Les anciens parlaient d'appétit. Évidemment, c'est un mot latin, appetitus. Les anciens appétit. Ils appelaient d'une l'inclination naturelle. Et quand on parlait d'appétit et d'inclination naturelle, on parle d'une orientation vers le bien, qui est la fin de l'appétit. Un appétit est ordonné. Il est ordonné à la fin, il est ordonné vers le bien. J'ai un appétit naturel à l'égard du boire et du manger. Quand je n'ai pas mangé depuis un certain temps. Tout à l'heure à midi, vous avez un appétit naturel, normal, pour quand même manger un bon morceau de pain. On ne vous servirait rien du tout aujourd'hui en vous disant, écoutez, aujourd'hui c'est une journée philosophique, le troisième jour vous devez être parfaitement disponible, alors pour une journée philosophique, à la place d'un repas, on fera un banquet philosophique. C'est-à-dire que de fait, on continuera le cours, on gagnera une heure, c'est magnifique. Alors, à ce moment-là, vous direz, ventre affamé n'a pas d'oreille. N'est-ce pas? Ça, c'est Dieu dicton. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un appétit naturel trop fort et trop véhément vis-à-vis de l'aliment, il va tout prendre. Et votre intelligence sera incapable de recevoir. C'est le gosse. Faites donner au gosse des petits renseignements d'amitié quand il crie après le biberon. C'est pas le moment. Choisissez le moment. Après le biberon. Je sais bien qu'après le biberon, il aura envie de dormir, mais ça, c'est différent. Mais il faut essayer de trouver les bons moments. L'appétit naturel est une chose qui est fondamentalement inscrite dans notre nature, dans notre nature humaine. La nature humaine, c'est le point de vue du corps et de l'âme. Faut pas l'oublier. C'est l'âme qui informe le corps, qui détermine le corps et qui fait cette unité qui est la nature humaine. Cet appétit naturel provient donc de notre nature. Nous avons différents appétits, ce que nous allons voir. Et l'appétit se prend en fonction du bien vers lequel nous tendons. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'appétit? Ça veut dire tout simplement une inclination naturelle. Une inclination naturelle qui nous porte vers tel ou tel bien. Le niveau, l'affectivité. L'affectivité, un mot que je ne sais pas, je ne vais pas regarder à quel moment c'est apparu. Ce serait intéressant, c'est toujours intéressant de voir quand un mot apparaît. L'affectivité, c'est assez moderne, ça je suis sûr. On est cherché même dans Descartes, ça n'existe pas l'affectivité. Descartes a encore un langage des théologiens du Moyen-Âge. Il y a un petit lexique très intéressant de Gilson là-dessus. Gilson a fait un petit lexique, pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, il a fait un petit lexique du vocabulaire de Descartes pour montrer que le vocabulaire de Descartes, c'était le vocabulaire de la théologie scolastique, puisque Descartes a eu comme professeur des pères jésuites, et donc on voit très bien que c'était la scolastique qu'il a eu comme premier enseignement philosophique. Et alors, Gilson prend ces mots en voyant la signification du côté scolastique et la signification qu'en donne Descartes. Autrement dit, Descartes ne modifie pas son langage, mais modifie la signification du langage. Ça, c'est très joli, c'est très vrai. Chaque fois qu'on est devant une plaque tournante, le langage continue, puisque la tradition continue, et c'est vrai, nous avons reçu ce langage, et puis il y a une signification nouvelle. Et puis alors, petit à petit, quand la signification nouvelle va s'imposer, il y a un langage nouveau qui apparaît. Le langage est toujours postérieur, il est second, il n'est jamais premier. Je ne pense pas d'abord par le langage, je pense d'abord par mon expérience. Vous savez, car le gosse, hein, le premier, quand le gosse voit une locomotive, hein, quand il entre dans une gare, il dit « qu'est-ce que c'est ça ?» Alors la mère répond « locomotive ». Vous comprenez que c'est très lumineux. Pour le gosse, locomotive, hein, qu'est-ce que ça veut dire, locomotive? Et alors il dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une locomotive? Il a raison, s'il est intelligent, il va reposer la question. Qu'est-ce que c'est qu'une locomotive? Parce que le mot ne signifie rien pour lui. C'est l'expérience. Il a vu la locomotive avant d'avoir le mot. Et il veut savoir ce que c'est. Et comme la mère est incapable d'expliquer ce que c'est qu'une locomotive, mais c'est une locomotive, je l'ai dit, voyons. Et ça n'explique rien du tout. Vous voyez, et ça c'est terrible, parce que ça c'est l'éteignoir d'intelligence. Les mots sont des éteignoirs d'intelligence, très souvent. Parce que les mots n'expliquent rien. On veut connaître, on veut être en relation. Alors, petit à petit le gosse, quand on lui a demandé plusieurs fois qu'on ne lui répond pas, alors il s'arrête. Il y a un arrêt de l'appétit naturel de connaître. La situation limite de l'intelligence en face d'une montagne de mots. Une avalanche de mots. Alors l'avalanche de mots arrête l'appétit naturel de l'intelligence. Vous faites très attention à ça. Un gosse, quand il interroge, il faut y répondre, ça met du temps, je sais bien, et c'est pas commode. Et si on ne sait pas, on dit, ah, je vais demander. Il faut demander ça à d'autres, quand tu rencontreras tel ou tel. Tu demanderas, parce que le gosse a un appétit naturel de connaître. Il veut connaître, il ne faut pas l'éteindre. Vous voyez, le gros éteignoir du sacristain. C'est le gros éteignoir du sacristain qui arrête la petite flamme. La petite flamme, c'est l'appétit naturel de connaître. Alors les mots, quand ils sont donnés avec force comme ça, n'expliquent rien du tout et éteignent. Ils arrêtent. Ça, c'est pour faire comprendre l'appétit naturel, vous voyez, et le refoulement. Parce qu'il y a un refoulement. Vous arrêtez un appétit naturel, et vous mettez un mot, vous mettez un mur devant. Et donc, vous refoulez l'appétit naturel. Alors, l'affectivité, c'est pour expliquer non plus l'ordre vers le bien, mais l'attitude subjective. Vous voyez, on a coupé le point de vue de l'ordre vers le bien, on l'a mis entre parenthèses. On n'a plus regardé cet ordre vers le bien. Et on a regardé uniquement la réaction du sujet. Le sujet, quand il aime, il est dans un état affectif. Donc l'affectivité, c'est tout simplement le résultat d'un amour du côté du sujet. C'est le conditionnement du sujet qui aime. Mais ce n'est plus l'ordre profond vers le bien. Vous voyez, c'est très significatif de voir la différence du langage entre appétit et affectivité. Vous voyez que le langage appétit respecte l'ordre objectif. L'appétit est ordonné vers le bien. Le bien, c'est ma faim. J'ai faim. J'ai faim du pain, j'ai faim de l'aliment, je désire avoir cela. Alors, il y a un ordre vers cela. Bon. Quand j'ai cet ordre vers le bien, quand j'ai cet ordre vers le bien, il y a une réaction en moi. Je suis dans un moment d'amour. Et donc le sujet est transformé par cet amour, par cet appétit qui s'actualise. L'appétit en acte, c'est l'amour. On va le voir, ça. Parce que c'est intéressant de voir ce que c'est que l'amour. Hein. Alors, l'appétit en acte, c'est l'amour. Qui transforme le sujet. Et le sujet aimant est dans un état d'affectivité. C'est le conditionnement du sujet. Alors, je veux bien employer le mot, il ne faut pas supprimer le langage moderne, vous comprenez bien, on est dedans, on est pétri là-dedans. Mais ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre. Il faut essayer de saisir ce langage. Et de le saisir par rapport à un langage ancien, il y a une continuité. Et en même temps, il y a un certain progrès, c'est évident. La psychologie a fait des progrès. Elle a fait des progrès. Mais, quelquefois aussi, elle s'est opposée à une attitude philosophique. Et s'opposant à une attitude philosophique, elle n'a plus regardé que le sujet. Et elle n'a plus compris ce qu'était la véritable affectivité. La véritable affectivité ne peut se comprendre que par rapport à l'amour. Et l'amour se comprend par rapport à l'appétit. Et l'amour se comprend par rapport au bien. Tandis que l'affectivité ne regarde pas le point de vue du bien, c'est simplement le sujet. Vous voyez ? Bon, une fois qu'on a cette distinction, je vais maintenant essayer de comprendre comment, dans l'homme, étant donné sa complexité, vous avez différents niveaux d'affectivité. Vous avez différents niveaux d'appétit. On verra bien comment l'affectivité, si on reste uniquement à l'affectivité, je ne peux plus distinguer ces niveaux. Parce que l'affectivité, c'est le repli sur le sujet. Alors, premier niveau, je commence par le cœur, si vous voulez. Hein. Je commence par le cœur. Nous avons des instincts. Nous avons des instincts. Ah, c'est bien évident qu'on a des instincts. Et ces instincts, on s'en aperçoit justement, on s'en aperçoit par le fait même que nous avons faim. Il y a un instinct. Premier instinct, l'instinct fondamental de l'individu. C'est l'instinct à l'égard du boire et du manger, l'aliment. Nous avons un instinct, un appétit naturel. Voilà, je dirais un appétit naturel. Un appétit naturel fondamental. Il est fondamental, celui-là. Il est congénital. Le petit enfant a très très vite faim. Rappelez-vous bien à quel moment vous avez eu faim. Rappelez-vous bien, c'est très important, ce premier moment de votre appétit. Et puis, est-ce qu'il y a eu un petit refoulement à ce moment-là? Votre mère dormait. Alors, j'ai crié fort pour la réveiller. Bon. Pour recevoir l'appétit naturel vis-à-vis de l'aliment. L'appétit naturel premier vis-à-vis de la respiration. Premier moment de l'appétit naturel. L'enfant respire. C'est son autonomie première. la première respiration du gosse. Tant qu'il est dans le sein maternel, il est dépendant de sa mère. Il n'a pas d'autonomie. Premier moment d'autonomie, c'est quand il naît et qu'il respire. C'est un acte important. C'est le moment de la première autonomie, ça. Et cette première autonomie, c'est justement cet appétit naturel à l'égard de recevoir quelque chose de l'extérieur. Il respire, il prend quelque chose du milieu. Il a changé de milieu, vous voyez. C'est. Je ne crois pas qu'on doive dire qu'il y a un traumatisme. Ça, c'est Freud qui dit que le premier traumatisme, c'est la naissance. Je ne crois pas qu'on doive dire ça. Parce que naître, c'est naturel. Rester dans le sein maternel indéfiniment, ce n'est pas naturel pour la mère ni pour l'enfant. N'est-ce pas ? Alors, c'est naturel que, au bout, quand l'enfant est capable de pouvoir avoir son autonomie, c'est naturel de le libérer. Ce n'est pas une prison, le sein maternel, mais c'est quand même un lieu assez restreint. N'est-ce pas ? Alors, comme c'est un lieu assez restreint, vous comprenez que quand l'enfant grandit et grossit, il a besoin de pouvoir respirer. Donc, ne disons pas, parce qu'on le dit toujours, ça, dans le langage freudien, que le premier traumatisme, c'est la naissance. C'est pas un traumatisme. Sortir d'un lieu restreint vers un autre lieu qui nous est comme naturel, c'est pas un traumatisme. C'est tout simplement un passage. Que ce soit un passage très important, oui, et qu'il faut faire attention à ce passage pour qu'il ne soit pas traumatisant, d'accord. De temps en temps, ce passage peut être traumatisant. Parce qu'on n'a pas respecté suffisamment les lois naturelles. Mais il ne faut pas dire que la naissance est nécessairement un traumatisme. Et que c'est le premier des traumatismes. Vous voyez, là, on confond la possibilité d'un passage traumatisant avec un passage naturel. Il est naturel pour l'enfant de naître. Ça, je crois qu'on est tous d'accord. Il est naturel pour l'enfant de naître. Mais de temps en temps, les conditions de la naissance seront traumatisantes. Ça peut se faire, pour telle ou telle raison. Je ne vais pas regarder ici tous les traumatismes qu'il peut y avoir au point de vue de la naissance. C'est très intéressant, c'est toujours très intéressant de voir ça, c'est le premier passage. Et le premier moment où il y a l'autonomie de ce petit être vivant dans son appétit naturel vis-à-vis de la respiration. Le premier appétit naturel, c'est la respiration. D'avoir un appétit fondamental vis-à-vis de la respiration. C'est pour ça que quand on ne peut plus respirer, on est suffoqué. Il y a quelque chose qui ne va plus. C'est très, très, très cru. On a besoin de respirer. Et respirer normalement et respirer pleinement, c'est quand même quelque chose qui est le premier appétit naturel vis-à-vis du milieu dans lequel nous nous trouvons. Puis alors après, c'est l'aliment. Alors ça, c'est l'appétit de l'individu. Il va arriver ensuite un instinct, un appétit naturel fondamental, encore plus fondamental, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'instinct sexuel. Les anciens, alors je dis ça parce que c'est très important de saisir ça, les anciens, quand je dis les anciens, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les Grecs, les théologiens du Moyen-Âge, jusqu'à Descartes. Les anciens distinguaient ces deux appétits comme deux appétits distincts. L'appétit de l'individu et l'appétit de l'individu au nom de l'espèce. Alors, il y avait l'instinct par rapport à la nourriture, l'instinct par rapport à la respiration, par rapport au boire et au manger. Trois appétits très très fondamentaux de l'individu. Et puis l'appétit, l'instinct sexuel, qui était l'appétit à l'égard de la procréation. C'était donc un appétit au nom de l'espèce. Il faut bien distinguer les deux, et je crois que c'est très important. Donc l'individu, et puis l'individu, mais il a la nature humaine. Donc, il y a à l'intérieur de l'individu la nature humaine. Il est responsable, chaque individu est responsable de l'espèce. C'est ça qui est extraordinaire. Nous représentons l'espèce humaine. Et nous sommes responsables de l'espèce humaine. Et alors, il y a cet appétit naturel au niveau de la procréation, qu'on appelle aujourd'hui l'instinct sexuel. Et l'instinct sexuel, alors, est quelque chose qui est enraciné en nous, encore plus profondément que l'appétit naturel de l'individu, parce que c'est au nom de l'espèce. Et donc c'est quelque chose d'encore plus obscur. Mais il faut distinguer les deux. Vous voyez, Freud a bloqué les deux. Ça, c'est le premier blocage de Freud. Et c'est Freud qui le premier fait ce blocage, parce que jusque-là, on n'avait pas fait le blocage. Pour Freud, il n'y a qu'un seul appétit fondamental, c'est l'appétit sexuel. C'est l'instinct sexuel. C'est celui-là qui commande tout. Même celui de la nourriture est commandé par celui-là. Et c'est pour ça que le complexe fondamental, c'est le complexe d'Œdipe. Vous voyez ? En faisant ça, Freud fait une confusion radicale entre l'individu et l'espèce. Et c'est pour ça que Freud, dans le « ça », ne distingue plus la nature. Alors, il voit uniquement l'individu. S'il distinguait la nature et l'espèce, il distinguerait par le fait même, nécessairement, le point de vue de l'appétit de l'individu par rapport à la nourriture et l'appétit naturel par rapport au point de vue de la procréation, le point de vue de la survie de l'espèce. Puisque je suis responsable de l'espèce humaine, il y a donc en moi un appétit naturel de faire survivre l'espèce humaine. Et c'est cet appétit naturel qu'on dit aujourd'hui l'instinct sexuel. Vous voyez ? Et alors en disant l'instinct sexuel, on veut distinguer, c'est ça qui est toujours la même chose, on veut distinguer la finalité de l'instinct sexuel de cet appétit, justement, vis-à-vis de la survie. Deuxièmement, il y a un appétit naturel, sensible. Voilà, je vous donne le fruit d'une analyse, hein, c'est bien évident. C'est le fruit, ça correspond tout simplement à l'analyse que nous avions fait hier des deux. Vous voyez ? Ayant fait l'analyse des degrés de vie, je vois à chacun de ces degrés de vie un appétit. Un appétit naturel, fondamental, vis-à-vis de tel ou tel bien. Il y a cet appétit naturel sensible, c'est-à-dire un appétit naturel qui ne peut se développer que grâce à une connaissance. C'est la différence de l'instinct. L'instinct n'a pas besoin de connaissance. Il est instinctif. Tout est déterminé. C'est pour ça que l'instinct est déterminé à dounoum, comme disaient les anciens. L'instinct est déterminé à dounoum. Il est déterminé, parfaitement déterminé selon la loi de la nature. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de cet appétit naturel sensible, qu'on va appeler les passions, il y a une connaissance qui fait que cet appétit naturel sensible a une certaine souplesse. Il n'est pas aussi rigide. Ah, c'est très intéressant ça, parce que ça montre comment il peut y avoir des transferts. Les transferts de Freud s'expliquent au niveau des passions. Quand c'est tout à fait déterminé à dounoum, il peut y avoir un transfert. C'est impossible. On ne peut pas faire un passage. Il faut un appétit naturel, sensible, qui implique une possibilité de la connaissance. Et une connaissance qui est l'imagination. Il y a la connaissance sensible et l'imagination. Toutes les passions ont un sous-bassement imaginaire. Toutes les passions ont un sous-bassement imaginaire. Alors, comme toutes les passions ont un sous-bassement imaginaire, l'imagination, c'est très plastique, hein, très souple, l'imaginaire. Alors, on comprend comment les passions, qui sont un appétit naturel, mais qui implique la connaissance et donc qui implique un certain amour sensible, les passions vont impliquer une certaine souplesse. Alors, nous allons regarder maintenant, si vous voulez, l'analyse des passions. Alors, le troisième, évidemment, je vais le tout de suite si vous voulez, l'appétit naturel, spirituel, qu'on va appeler la volonté. On va appeler la volonté. La boulessis, si vous aimez mieux en grec, hein, ça vous dira mieux. La boulessis. La boulessis grecque. C'est la... Oui, la boulie, c'est bien quand on dit quelqu'un est aboulique. C'est-à-dire un peu de volonté. ça vient de ça, tout simplement, bolésiste, la volonté, le volontaire. Alors, la capacité d'aimer. Alors, il faut bien distinguer que ces appétits se distinguent en fonction des différents biens. Là, je suis en présence d'un bien spirituel, c'est-à-dire une personne humaine. La volonté regarde une personne humaine, j'aime une personne humaine, et ça se développera dans l'amour d'amitié. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit d'appétit naturel sensible, ça regarde le bien sensible. C'est la première chose que je regarde, c'est le bien sensible. Le bien sensible qui détermine les passions. Et le point de vue de l'instinct regarde l'aliment. Ou regarde le point de vue de la procréation. Alors, distinguons bien, il faut qu'on ait. Essayons maintenant de comprendre, parce que c'est très important, là, de regarder le domaine des passions. Ce qui est très curieux, hein, ça je vous dis à titre de renseignement, petit note bene, mettez ça, c'est très intéressant à voir. Les passions ont été étudiées de la manière la plus magistrale chez saint Thomas. Un psychanalyste, à vos jours, je leur ai fait le traité des passions de saint Thomas, comme je vais le faire avec vous. Alors ils ont ouvert des yeux tout grands en disant, au Moyen-Âge, on étudiait la passion de cette manière-là, ce siècle obscur. Et ils ont vu, ils ont été obligés de reconnaître que l'étude de saint Thomas était bien plus fouillée que celle de Freud. Ils me l'ont dit. C'est pensé, parce que saint Thomas a étudié la passion d'une manière très particulière. Pourquoi saint Thomas s'est-il si intéressé aux passions? C'est parce qu'il voulait voir si le Christ a eu des passions. Donc c'est un souci de connaissance du Christ. Parce qu'il faut bien voir que les passions, dans la philosophie stoïcienne des Grecs, et la philosophie stoïcienne a eu une très grosse influence sur les pères de l'Église. Pour les stoïciens, les passions, c'est quelque chose de mauvais. On doit les supprimer. Pas l'oublier. C'est très important de voir ça. Parce que les stoïciens ont eu une influence à travers tous les pères de l'Église. Et je crois que dans certaines méthodes d'éducation, le stoïcisme a dominé. Ça, c'est bien évident. Dans certaines méthodes d'éducation, le stoïcisme a dominé. Et on a considéré toujours les passions comme quelque chose de mauvais. Si les passions sont mauvaises, elles ne peuvent pas exister dans le Christ. Saint Thomas est le premier à reconnaître que dans le Christ, il y a des passions. Mais que ces passions dans le Christ ont toujours été au service de l'amour spirituel. Toujours des passions. Donc, ce sont des passions qui ont été entièrement assumées. Parce qu'il est évident que le danger des passions, c'est comme le danger d'un cheval qui part au galop. Quand les passions sont trop développées, à un moment donné, vous ne pouvez plus. Un être passionné, ça ne peut plus retenir. Impossible. Il n'entendra aucun raisonnement, aucun, absolument rien. Il sera saisi. Et les passions seront souvent liées à l'instinct, et alors deviendront quelque chose de très impératif. Oui. Alors, c'est en face du danger des passions que les stoïciens ont dit les passions sont mauvaises, il vaut mieux les tuer dans l'œuf. Alors, on a supprimé les passions. En faisant ça, ils faisaient des refoulements terribles. On est bien. Alors on est tombé de carrément si là. Et là vous avez Freud qui répond aux stoïciens. J'aime encore mieux être stoïcien que d'être freudien. J'aime mieux. À égalité. Parce qu'au moins, chez le stoïcien, il y avait le désir d'une volonté, et d'une volonté qui pouvait dominer. Tandis que dans Freud, on est tous aplatis. Et on est tous sans la spiritualité de la descente du fleuve. Et alors on devient tous des cadavres. C'est l'inconvénient, Freud. C'est vrai. On est tous sans aucune énergie. Tandis que le stoïcisme développait la volonté. Ça développait la volonté. Mais ça supprimait le point de vue de la passion. Alors, ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre. C'est ça la très grosse difficulté. Il faut trouver l'équilibre. Vous voyez, c'est au fond ça toute notre éducation. L'éducation, c'est l'éducation du cœur, avant tout. C'est l'éducation du cœur. Or, éduquer le cœur, c'est harmoniser en nous les forces de l'instinct. Il ne faut pas brimer l'instinct, il faut le canaliser. Les forces de l'instinct, il faut assumer, je ne dis pas canaliser, assumer les passions et développer en nous pleinement l'amour volontaire. Cet amour spirituel. Et c'est la difficulté, parce que tout ça est vécu dans le même sujet, vous comprenez. Je peux être suffisamment conscient qu'à un moment donné, mes instincts se développent. Le jeûne augmente l'appétit naturel du boire et du manger. Alors évidemment, on se rattrape, on se dit, alors, je peux boire autant que je veux quand je jeûne, c'est l'aliment. En Israël, c'est ni boire ni manger, le vrai jeûne. Parce qu'on sait très bien qu'on se rattrape sur la boisson. Si le jour de jeûne, vous prenez un peu trop de vin, eh bien vous alcoolisez, et vous devenez ivre. C'est une manière très élégante de passer son jour de jeûne. N'est-ce pas ? Vous le passez dans un état d'ivresse. Alors à ce moment-là, ce n'est pas du tout jeûner. C'est pas du tout jeûner. Le jeûne va être un frein vis-à-vis de l'appétit naturel du boire et du manger. Et quand vous aurez jeûné, vous aurez encore plus faim. Bien évident, c'est une bonne cure pour augmenter votre faim. Et alors, votre appétit naturel sera plus fort. Mais vous n'allez pas le brimer indéfiniment, cet appétit naturel. Vous allez l'éduquer pour que, de fait, vous puissiez manger modérément pour pouvoir éduquer en vous votre intelligence et votre volonté. Alors, je regarde maintenant le domaine des passions. Je vous donne ici la doctrine de saint Thomas. C'est très difficile d'ajouter quelque chose de plus. Regardez tous les autres traités des passions, il n'y en a aucun. C'est là l'originalité de saint Thomas. C'est très curieux, on ne le dit jamais. Et c'est pourtant, ce serait une bonne propagande. Saint Thomas, l'homme des passions. Le philosophe des passions. Et c'est vrai ce que je vous dis là. Si vous me découvrez autre chose, vous me le direz. Mais c'est très très net, c'est le philosophe des passions. Pourquoi ? Parce que c'est le philosophe réaliste. Alors il regarde les passions d'une manière étonnante. Alors, je vais vous donner ce petit tableau des passions qui serait très intéressant à développer. Parce que c'est palpitant de regarder les passions, vous voyez, par nature, c'est passionnant. Mais alors, c'est quelque chose qui nous aide à comprendre ces forces que nous portons. C'est tout notre psychisme, ça. Si je veux analyser notre psychisme, c'est les états passionnels. Chacun d'entre nous avons un psychisme passionnel, c'est bien évident. Si vous n'avez pas un psychisme passionnel, c'est très ennuyeux. Parce qu'on ne sait plus comment vous attraper. Il n'y a plus d'hameçon. Tandis que quand vous avez un psychisme passionnel, on peut vous... Alors évidemment, il ne faut pas que le psychisme passionnel étouffe l'amour volontaire. Étouffe votre intelligence. Parce que ça peut très bien arriver. Si les passions sont trop bien nourries, n'est-ce pas, vous restez au niveau des passions en disant « c'est tellement beau ». Ce serait très intéressant par rapport, vous voyez, à tout l'aspect de la drogue d'aujourd'hui. Parce qu'au fond, c'est ça. La drogue, c'est agir sur l'imaginaire pour vous mettre dans des états passionnels et oublier le reste. Vous n'avez qu'à demander l'expérience de ceux qui se droguent au point de départ, c'est très net. Ils n'ont plus de plaisir, ils n'ont plus aucun sens de leur vie. Tout devient idiot, tout devient... Alors ils veulent un tout petit peu quand même changer. Oui, c'est le besoin de quitter cette neutralité affreuse de quelque chose qui est la grisaille absolue. Alors ils veulent quitter cela pour entrer dans quelque chose qui est un état au moins pendant quelques instants, pendant quelques heures, on sera dans un monde de rêve. C'est le rêve qui veut l'emporter. Alors, regardons les passions. On distingue tout de suite le bien sensible. le bien sensible immédiate. Immédiate, le bien sensible comme tel. Et puis le bien sensible ardu. Vous allez tout de suite comprendre. L'ardour. Le bien sensible immédiat fait appel à ce qu'on appelle le point de vue des passions du concupiscible. Et l'autre, c'est l'irascible. Vous voyez, c'est une distinction très fondamentale au point de vue passionnel. Nous avons en nous des appétits du concupiscible. Quand je prends concupiscible, hein, comprenez bien, ce n'est pas péjoratif, hein, le concupiscible. C'est tout simplement les passions du concupiscible. Et puis nous avons en nous un irascible. C'est facile à comprendre. On a tous quand même piqué des colères dans sa vie. J'espère. Celui qui n'a jamais piqué de colère dans sa vie, il lui manque quelque chose. Vous voyez ? Donc l'irascible va prendre le sommet dans la colère. Et au niveau des passions, on est assez proche de l'animal, vous savez. Regardez un chien qui aboie. Ça vous fait penser à d'autres qui aboient. C'est évident. C'est l'irascible qui fait qu'on aboie. Et quand le chien aboie, donnez-lui un os, il ne va plus aboyer. C'est extraordinaire. Jetez-lui, il ne va plus aboyer. Et donc, quand quelqu'un est en colère, servez-lui un plat de lentilles. S'il aime les lentilles, une bonne bouteille, s'il aime une bonne bouteille. Faut comprendre ça, faut tirer les ficelles, faut le connaître. Bon, alors, il y a le point de vue du concupiscible et le point de vue de l'irascible. Le point de vue du concupiscible va impliquer comme première passion l'amour. Ah, c'est là où il faut essayer de comprendre la philosophie de l'amour. La première expérience que nous avons, que nous pouvons tous connaître, hein, et que nous connaissons tous, nous avons tous un amour passionnel vis-à-vis de tel ou tel bien sensible. Tel ou tel bien sensible. Certains, c'est le chocolat. Ils sont nés dans le chocolat. Alors, ils ont une connaturalité particulière de l'individu. D'autres, c'est le vin. Dès qu'ils sont en face d'une bonne bouteille, extraordinaire, merveilleux. D'autres, c'est des petits gâteaux fourrés. C'est varié. Parce que cet amour passionnel porte sur un bien sensible immédiat. Un bien sensible immédiat. On a un amour de cela. Alors, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour. Hein. Ça, c'est important. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que cet appétit naturel, l'appétit naturel du concupiscible va s'épanouir dans un amour. Un amour à l'égard du bien sensible. Je colle au bien sensible. Par l'amour, je colle au bien sensible. Je suis un avec le bien sensible. Je suis en connaturalité avec ce bien sensible. J'aime le chocolat, je deviens chocolat. C'est extraordinaire, ça. C'est le point de vue de cet amour sensible qui me lie à cet amour sensible, qui me connaturalise avec cet amour sensible. Cet amour sensible peut ne pas être présent. Alors, ça suscite un désir. Seconde passion, le désir. Première passion, l'amour. Deuxième passion, le désir. Le désir, c'est quand ce bien n'est pas présent. Alors, quand ce bien n'est pas présent, j'en ai soif. Le désir. Le désir présuppose l'amour. Il n'y a pas de désir sans amour. Il n'y a pas de désir sans amour. Tandis qu'il peut y avoir un amour sans désir. L'amour est fondamental. Il est premier. Remarquez qu'au point de vue passionnel, je crois qu'il n'y a jamais d'amour sans désir. Parce que le bien ne nous est jamais toujours donné. On en veut toujours plus. Alors, il y a toujours le désir. Et puis, il y a la jouissance. Quand le bien que je désire m'est donné, je jouis. La jouissance, c'est le repos dans le bien sensible. Je me repose dans le bien sensible. Il y a le repos dans le bien sensible, et ce repos dans le bien sensible, je crois que c'est l'heure. Il faut arrêter dans la jouissance. Vous allez voir, on verra. Vous avez à côté du bien, vous avez le mal. Et vous avez donc les passions à l'inverse du bien. Vous avez la haine noire, hein, à l'égard du mal sensible. Hein. La passion de la haine n'est pas mauvaise. Hein. Aucune de ces passions ne sont mauvaises. C'est si elles prennent tout. Je ne peux pas aimer le mal. C'est impossible. Je ne peux pas aimer le mal. C'est sadique. Je ne peux pas aimer le mal. Donc j'ai de la haine vis-à-vis du mal. Et alors, le mal, c'est justement quand la haine, c'est à l'égard du mal sensible. Il y a le point de vue, je vous donnerai ça en fait, successivement. Mais il faut arrêter maintenant parce que c'est l'heure, il faut qu'on parle.